Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à la 18e émission du Grand Buffet de Radio Slash. C'est Domitil et je suis heureuse de vous présenter cette émission un peu spéciale car nous évoquerons le thème de la discrimination aujourd'hui. Nous sommes le mardi 16 novembre 2021 et nous sommes dans notre studio du CDI et j'ai 17 ans depuis 6 jours.
Nickel, bravo.
Ouais, bravo.
Wow.
Au menu aujourd'hui, nous avons une interview avec une professeure du lycée, Madame Guichard. Bonjour Madame, vous allez bien ?
Ça va bien, merci. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Vendredi dernier, les élèves de première du lycée technologique et professionnel ont rencontré des associations sur le thème des discriminations. Nous en parlerons ensemble si vous voulez. En attendant, nous allons commencer avec Alexia qui nous évoquera l'homophobie et nous fera un billet d'humeur. Bonjour Alexia.
Bonjour.
Ensuite, Dounia nous parlera du cyberharcèlement. Bonjour Dounia.
Bonjour. En cette émission spéciale, je vais vous parler du cyberharcèlement qui est un fléau qui touche en moyenne 20% des enfants ayant avoir vécu une situation de cyberharcèlement.
Après ça, nous aborderons le sexisme avec Valentin. Bonjour, bonjour.
Bonjour à tous. À l'occasion de cette émission spéciale, je vais vous parler du sexisme à l'école et dans le milieu professionnel.
Merci. Ensuite, nous aurons Maëva qui va nous parler du racisme, c'est bien ça ?
Oui, exact. Je vais parler du racisme, mais aussi si jamais, étant métisse, si jamais j'en ai vécu ou quoi. Voilà.
D'accord. Et pour finir, Dounia nous fera un billet d'humeur. Bon, il y en a pas mal aujourd'hui, je sais, mais bon, c'est important de dire ce qu'on a sur le cœur.
Oui,
c'est vrai.
Allez, c'est parti avec Alexia.
Bonjour à tous. Alors du coup, pour commencer, donc, je vais faire mon petit billet d'humeur sur une phrase dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Enfin, j'espère que vous ne l'avez pas entendue personnellement. La fameuse phrase quand on parle d'agression sexuelle et qu'on vous dit « Mais comment est-ce qu'elle était habillée ?» cette fameuse phrase qu'on aime, hein, qu'on adore entendre, je la trouve complètement stupide et j'espère qu'on ne dit pas la même chose aux enfants, aux petites filles de 6 ans. Oui, bah, si tu portais pas sac à dos d'Odora aussi, j'aurais pas un guichet, ce pédophile. Enfin bref, c'est vraiment horrible et je pense que les gens ont un gros problème avec le fait de comprendre que certaines personnes se prennent de la haine gratuitement, même s'ils n'ont rien fait. Et c'est le cas d'ailleurs dans le harcèlement dont je sais que certaines personnes vont parler aujourd'hui, la fameuse phrase de « Qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça ?» Pas rien, et même ça n'excuse pas du harcèlement. Ouais. Enfin bon, donc du coup, moi je vais vous parler de mon témoignage personnel sur le harcèlement. Donc il faut savoir que moi déjà, dès que j'ai été placée à l'école, ça a été le caca, hein, pour être poli. Ça a été le caca, je me suis fait embêter pour un oui ou pour un non, mais bon, ça allait, c'était quand même que des chamailleries d'enfants. La première vraie forme de harcèlement, moi je l'ai rencontrée au CM2 lorsqu'un groupe de garçons s'est mis en tête de me faire comprendre que j'étais grosse.
Voilà. C'est pas gentil, ça.
Non, c'est pas très agréable.
La mentalité des gars, quand même.
C'est ça.
Et surtout à cet âge-là.
Oui, alors, surtout à cet âge.
Moi, j'avais beaucoup de chance. C'est que, bah, vu que j'étais une fille assez sûre de moi, bah, j'en avais rien à faire. Et je suis allée le dire à mon papa, hein, qui a les dimensions d'un frigo américain. D'un frigo américain, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres. Ancien rugbyman, je crois au moins que quand tu fais 110 kilos, tu n'as pas envie de te faire embêter. C'est ça. Et les enfants en question ont vite arrêté d'ailleurs.
On dit merci au papa. Hein.
C'est ça, merci à mon papa.
On applaudit le papa.
Et après, bah, le harcèlement, ça a continué quand je suis rentrée au collège. Ça a pris une ampleur assez monumentale quand je suis arrivée en 5e. Ça a été déjà de l'intimidation, des insultes. Je me suis fait taper dans mon bus. J'ai eu donc beaucoup de violences physiques. On a dévalisé mon casier, on a détruit mes affaires qu'il y avait dedans. Je me souviens que tous les jours, dans le hall d'entrée de mon collège, il y avait beaucoup de gens. Et en fait, ils essayaient de me faire tomber en me faisant des croche-pieds dès que je rentrais. Ou alors, c'était des filles qui me prenaient et qui hurlaient que j'étais maquillée comme une traînée.
Ouais. C'est horrible.
En prenant à part les surveillants, en disant « Vous avez vu, madame, comment elle est maquillée quand même ?» Mais là, ça se fait pas, hein, à son âge et tout. Enfin bref, les surveillants qui étaient un peu démunis en mode « Je comprends pas ce qui se passe. »
C'est les surveillants qui disaient ça ?
Non, ils disaient rien en fait, parce qu'ils prenaient toujours la même surveillante. Et pour le coup, je lui en veux pas, Bichette, c'était une surveillante un peu perdue. Je pense qu'elle s'était un peu... Elle comprenait pas tout ce qui se passait, je pense, mais je lui en veux pas. Donc ça a été de l'homophobie aussi, je me suis pris des salgouines dans le bus, le jour où je me suis fait taper dans mon bus, c'était des salgouines. Un jour aussi, j'étais très amoureuse d'une fille. Je devais être en quatrième, je crois, quatrième, troisième. Et cette fille, elle m'a embrassée dans la cour pour X raisons. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me l'a fait. Et quand je suis rentrée juste après en classe, il n'y avait pas le prof. Il nous avait ouvert, on était rentrés. Mais après, on est tous... Enfin, il est ressorti. Et il y a une fille qui s'est levée et qui a dit très, très fort devant toute la classe. Et sinon, pourquoi t'as embrassé Sophie ?
Oh. Yes, c'est
alors, ouais, pour t'afficher devant toute la classe.
Pas. Alors pas de Paul pour elle par contre parce que moi c'est un truc que j'assume, c'est ma sexualité et je lui dis pourquoi t'étais jalouse.
Génial. Ah,
bonne répartie, bonne répartie.
Ah ouais non, c'est un truc où tu peux pas me tacler, c'est ça. Ouais. Hein. Désolé mais ça ne marche pas avec.
Et après
moi.
Tout le monde dans la classe a dit bouh.
Enfin bon, donc ça a été quand même malgré tout très très difficile, hein, dans des angoisses évidemment avant d'aller en cours, du renfermement sur soi, enfin bref, toutes les conséquences qu'a le harcèlement. Il y a eu des tentatives de suicide aussi, de ma part, il y en a eu 3. Donc déjà, coucou à mes parents qui ne le savaient pas s'ils écoutent. Enfin, et des conséquences aussi à long terme, c'est-à-dire que j'ai un grand manque de confiance envers les gens qui m'entourent. Quand je suis arrivée au lycée, j'étais paniquée, j'ai rejeté tout le monde alors que tout le monde était gentil. Donc voilà, mais bon, ça va quand même mieux aujourd'hui.
Bah, j'espère.
Ça va mieux, ça se passe bien, j'ai plus peur des gens. Heureusement. On s'en sort. Et puis voilà, moi, je voudrais faire une petite dédicace à toutes les personnes qui ne peuvent pas raconter leurs histoires parce qu'elles ne sont plus là pour les raconter. Donc une petite pensée à elles et puis une petite soutien à leur famille également.
Ouais. Merci. Ça, c'était un peu pas très joyeux, la fin.
C'est sûr,
bon, voilà.
Allez, à toi, Dounia.
Alors... Alors, qu'est-ce que le cyberharcèlement ? Pour vous remettre dans le contexte, c'est du harcèlement par voie électronique pratiqué sur les réseaux sociaux, qui a fait énormément parler pendant le confinement. Les créateurs de contenu, par exemple, sur la plateforme YouTube, comme Sananas, qui a fait une vidéo dédiée au harcèlement qu'elle subissait sous ses commentaires. Des pages dédiées à elle ont été créées pour appeler au boycott de ses vidéos. Jusqu'à même essayer de ruiner sa carrière professionnelle en appelant les marques avec lesquelles elle collaborait. Mais disons que ça, c'est à l'échelle, comme nous le dirions, de quelqu'un qui a les moyens, qui n'a pas besoin de se plaindre et qui a décidé d'être médiatisé en quelque sorte. Mais parlons de ces jeunes qui n'ont rien demandé, qui arrivent à mettre fin à leur jour parce qu'ils ne supportent plus, car oui, malheureusement, ce qui est sur Internet, ne s'oublie pas. Il peut être repris ou partagé, envoyé de partout dans le monde et c'est là l'inconvénient. Quand je parle de ces jeunes, je parle de Gina, 14 ans, qui s'est donné la mort car elle subissait des insultes permanentes sur les réseaux sociaux par ses camarades. Je parle aussi de Gauthier, 18 ans, qui s'est donné la mort après avoir été victime de chantage sur Facebook pour pas qu'une vidéo intime de lui ne soit envoyée à son entourage. Et encore, je pense qu'il y en a encore de nombreuses personnes à citer ici et qui n'ont peut-être à l'heure où l'on parle, qui sont à l'heure, pardon. Où l'on parle dans cette situation. Ouh là là, excusez-moi, je suis très émue.
Non,
je suis très perturbée par ce que je dis. Le pourcentage ne cesse d'augmenter. Que faire pour que ce fléau s'arrête ? Et est-ce qu'il y a des solutions ? Que fait la justice pour accompagner les victimes ? Y a-t-il eu, à votre avis, assez d'interventions dans les écoles ou les lycées pour sensibiliser à ce fléau ? Je vous laisse sur ces interrogations et vous dis à très vite.
Merci beaucoup. Et c'est parti avec Valentin.
Alors pour commencer, c'est quoi le sexisme ? Le sexisme regroupe à la fois des croyances et des comportements qui tendent à stigmatiser, délégitimer ou inférioriser les femmes en raison de leur sexe. Les manifestations sont très diverses. Ça va des stéréotypes avec des soi-disant blagues ou des remarques, jusqu'aux comportements les plus graves comme les discriminations, des violences ou même des meurtres. La forme de sexisme à laquelle nous sommes le plus exposés est aussi celle qui est la plus difficile à détecter. C'est le sexisme dit « ordinaire », qui regroupe l'ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe et qui, bien qu'en apparence anodins, ont pour objectif ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, de délégitimer, d'inférioriser les femmes de façon insidieuse ou bienveillante. Par exemple, au quotidien, ce sont des blagues, des commentaires, des stéréotypes négatifs, des marques d'irrespect, des pratiques d'exclusion. Ce genre de comportement vous parle ?
Oui.
Oui.
Eh oui, car malheureusement, les stéréotypes sexistes sont encore trop présents, notamment dans l'enseignement. En effet, dans la plupart des manuels scolaires, les femmes ont des rôles secondaires, ce qui renvoie à l'image que la femme s'occupe des tâches ménagères pendant que l'homme travaille. Selon une enquête de 2017 réalisée par le Haut Conseil à l'égalité portant sur les manuels de lecture de CP, 67% des personnages sportifs sont des hommes et 70% des personnages en charge des tâches ménagères sont des femmes. Au lycée aussi, les stéréotypes sont présents, notamment dans les œuvres des auteurs du bac. Parmi les 12 livres étudiés, il n'y a quasiment pas d'ouvrage d'autrice. Les enseignants peuvent aussi, sans s'en rendre compte, avoir eux-mêmes des comportements sexistes, notamment dans les matières scientifiques, où des études ont prouvé que les professeurs interrogent plus souvent des garçons que des filles, ce qui renforce l'idée que les filles seraient moins fortes dans les matières scientifiques. Nous sommes aussi tous victimes de censure sociale. Ce terme désigne le fait de renoncer à certains choix sans en avoir conscience. Par exemple, on associe souvent les femmes à des activités dites domestiques, comme les soins ou l'éducation, ce qui n'incite pas les garçons à choisir ce type d'orientation. Pour sortir de ce cercle vicieux de stéréotypes sexistes, il y a des solutions. Par exemple, la chercheuse Delphine Martineau a fait une expérience dans une classe de CM2. Juste avant une évaluation, elle a pris 5 minutes pour raconter le parcours d'une fille de 6e qui excelle en mathématiques. L'expérience a permis d'observer des résultats positifs sur les deux sexes. Pour les manuels scolaires, la France pourrait s'inspirer du modèle canadien. En effet, au Québec, les manuels sont soumis au contrôle d'une instance dédiée, le Bureau d'approbation du matériel didactique, le BAMD. Et c'est ce BAMD qui relie les manuels et qui donne le feu vert au ministère. Il publie également des guides à destination du corps enseignant pour former sur le sexisme. Le sexisme est aussi très présent dans la vie professionnelle. Et oui, les enfants ont grandi. Pour commencer, beaucoup de clichés concernent la légitimité pour un homme ou une femme d'exercer certains métiers. Je peux prendre un exemple à partir de mon cas personnel. Mon père est sage-femme et ma mère est responsable logistique. Et quand, en début d'année, les profs nous demandent de remplir la petite fiche de renseignement avec les métiers des parents, on demande souvent si j'ai pas inversé leur profession.
Et oui. Ah oui.
Il faut savoir que le sexisme dans le monde du travail est puni par la loi depuis le 19 août 2015 avec l'article 1142, paragraphe 2, alinéa 1 du Code du travail qui dit, je cite, « Nul ne doit subir d'agissement sexiste défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Mais le sexisme est rarement puni car il est difficile de savoir si une remarque est ouvertement sexiste ou si elle est seulement maladroite. Pour vous aider à y voir plus clair, je vais vous décrire quelques formes de sexisme. Pour commencer, il y a le sexisme ouvertement hostile. Dans ce cas de figure, le sexisme est intentionnel, bien visible et sans équivoque. L'opinion négative est défavorable à l'égard du sexe opposé et est alors exprimée ouvertement, ce qui la rend plus facile à démontrer. Bien que cette forme de sexisme ne soit pas tolérée dans la plupart des milieux, on la retrouve encore dans les secteurs d'activité traditionnellement masculins. En deuxième lieu, il y a le sexisme masqué. Les auteurs affichent publiquement une opinion favorable à l'égalité des sexes, alors que dans les actes, leur conduite peut aller à l'encontre totale de cet idéal. Par exemple, en sous-valorisant leurs collègues du sexe opposé ou en ayant des comportements poussant à l'échec. La nature cachée de ce sexisme est volontaire et l'intention de nuire est tout à fait consciente. Il y a ensuite le sexisme subtil. Le traitement inégalitaire est ici difficilement visible car il est directement lié aux stéréotypes de sexe profondément ancrés dans notre société par les traditions et croyances populaires, la religion, la mythologie, certaines théories scientifiques, voire même certaines lois. Les acteurs de ce sexisme ne réalisent pas nécessairement que leur comportement est discriminatoire. Pour finir, la forme de sexisme la plus courante, le sexisme bienveillant. Cette forme de sexisme est la plus trompeuse car la plus insaisissable. Elle se caractérise par des propos ou des attitudes différenciant favorablement, en apparence seulement, les femmes en leur accordant certaines qualités positives. Le problème réside dans le fait que ces soi-disant qualités se basent sur des croyances condescendantes et infantilisantes vis-à-vis des femmes. Les auteurs de ce type de sexisme ont le plus souvent de bonnes intentions et ne se rendent pas compte du caractère discriminatoire de leurs propos. Pour vous donner un ordre d'idée, 80% des femmes en sont victimes. Il faut aussi savoir que 8 femmes sur 10 ont déjà été confrontées au sexisme au travail. Pourtant, malheureusement, elles ne sont pas toujours prises au sérieux. Ainsi, 56% des personnes ayant dénoncé ces faits n'ont pas été crues. Je tiens d'ailleurs à vous rappeler que si vous subissez du harcèlement ou une agression sexuelle et que l'agent chargé de recueillir votre plainte la refuse, vous pouvez lui rappeler qu'il est dans l'obligation de la recueillir selon l'article 15.3 du Code de procédure pénale. Pour sortir de ces discriminations, nous pouvons tous agir, qu'on soit une femme ou un homme. En tant qu'homme, il ne faut pas oublier que dans la société actuelle, on a une place dominante et qu'on bénéficie de privilèges dont on oublie souvent l'importance. Pour Irène Zellinger, directrice de l'ASBL Garance, on peut comparer ces privilèges inconscients à l'air que l'on respire. Effectivement, c'est quand on en manque qu'on réalise qu'on respirait cet air sans même s'en rendre compte. Nous pouvons aider au quotidien en tant qu'homme, par exemple en relayant la parole des femmes sur les réseaux sociaux. On peut aussi se questionner sur la masculinité. Qu'est-ce qu'être un homme dans notre société ? Qu'est-ce que la virilité ? Ai-je toujours adopté un comportement adéquat ? Je conclurai en disant qu'il ne faut pas lâcher nos efforts pour atteindre l'égalité.
Merci, merci Valentin. C'est vrai que tout ça est un peu problématique.
Oui, c'est peu de le dire.
Et maintenant, un petit intermède musical avec la chanson « Ma chérie » d'Hélène Piris.
À qui les doux d'être une femme, à qui les doux. Aurélie, ma chérie, enlève tes doigts de ton nez. Et on dit pas ça fait chier quand on est une petite fille si jolie. Ben qu'est-ce que t'as, ma chérie? Réponds à tonton Henri qui veut te prendre sur ses genoux. Arrête de faire l'enfant, fais-lui un gros bisou. À qui les doux d'être une femme? À qui les doux? Virginie, ma chérie, t'as vu comment t'es sapée? On dirait un maraîcher, une fille négligée, ça fait pas bien envie. Je peux te parler, ma chérie, papa t'a vu aujourd'hui avec un nouveau garçon. Tu sais, ça se fait vite, une réputation. À qui les doux d'être une femme? Yasmina, ma chérie, dis bonjour à ton mari. C'est le grand monsieur là-bas, il te rendra heureuse, ma chérie, t'en fais pas. Et pour lui, ma chérie, on va couper une partie de ton corps qui sert à rien. Ça pique un peu au début, puis tu sentiras plus rien. À qui les doux d'être une femme? Conseil, mes chéris, pour réussir votre vie, ne passez pas trop de temps à vous poser des questions. Faites plutôt des enfants. Ah, qu'il est tout.
Et c'est parti pour l'interview. Donc, bonjour. Enfin, on s'est déjà dit bonjour.
C'est vrai.
Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît.
Alors, je suis Anne Guichard et je suis enseignante au lycée depuis un bon bout de temps maintenant dans la section ST2S, sciences et techniques sanitaires et sociales. Et j'enseigne la matière STSS. On parlait de sexisme actuellement. Moi, j'ai effectivement beaucoup, une très grande majorité de jeunes filles dans mes classes. Et voilà.
D'accord. Donc du coup, vous assurez quoi? Enfin, ça consiste en quoi, vos cours?
Alors, on pourrait faire une émission de radio là-dessus, je vais aller très vite en fait. Mes élèves, ils vont poursuivre dans des études du domaine paramédical ou social. Donc, dans ma matière, dans la matière que j'enseigne, qui est une des spécialités, justement, on aborde la santé et on fait un gros travail autour de la santé et ensuite autour du bien-être social.
D'accord. C'est vous qui êtes à l'origine de la demi-journée de lutte contre toute forme de discrimination, si je ne me trompe pas. Comment cette journée a réussi à être mise en place ?
Alors, ce n'est pas tout à fait moi toute seule qui suis à l'origine de cette demi-journée. En fait, on a un collectif d'enseignants. On a répondu à un appel d'offres en fait, de la DILCRA, qui est la délégation interministérielle de lutte contre la discrimination, qui nous proposait une petite enveloppe budgétaire pour mener une action à destination de nos élèves. Et donc, avec un ensemble d'enseignants, en fait, on a réfléchi à comment on pouvait organiser un temps fort qui allait concerner une grande partie de nos élèves. Et les faire réfléchir à la discrimination sous plein de formes, parce que vous avez abordé la discrimination de genre, vous allez aborder tout à l'heure le racisme, mais la discrimination, ça touche aussi le handicap. Et voilà, donc à partir de là, on a réfléchi à bloquer une demi-journée qui était banalisée pour les élèves qui n'ont pas eu cours, et à leur faire vivre ce moment de réflexion sur la discrimination.
Voilà. D'accord. Donc du coup, c'est vous ou pas qui avez choisi du coup qui est-ce que vous avez que vous invitiez les...
Voilà, alors à partir de là, effectivement, on s'est dit que nous, la discrimination, on la traite à travers nos cours, même si des fois on la traite effectivement mal, et qu'il y avait sur Valence tout un tas d'associations et de structures qui étaient spécialisées dans la lutte contre la discrimination. Donc on a invité en fait des partenaires du lycée qui sont des fois des partenaires anciens qui viennent régulièrement au lycée, et puis des nouveaux partenaires pour pouvoir les faire intervenir sur différents aspects de la discrimination. C'est comme ça qu'on a retrouvé au lycée 12 associations et structures qui ont proposé des ateliers aux élèves de première, à tous les élèves de première du lycée. Donc vous étiez plus de 280 à suivre cette demi-journée.
D'accord. Et donc du coup, vous avez remarqué un besoin chez les élèves ou
Alors, le besoin, en fait, nous, on a du mal de notre salle des profs de remarquer ce besoin. On imagine qu'il existe. Ce que je sais, moi, ce que je ressens, et je pense qu'on est plusieurs enseignants à le partager, c'est qu'on voit que finalement, vos filières au lycée Mon Plaisir, elles ont du mal à se mélanger. Mais vous êtes le contre-exemple sur cette émission de radio, donc voilà. en fait, dans la cour de récréation, on voit des lycéens issus du lycée professionnel, d'autres du lycée tech, et j'ai l'impression que vous ne connaissez pas forcément entre vous. Même au sein du lycée tech, dans les différentes formations, je ne suis pas sûre que les sections se mélangent. Et donc, on s'est dit qu'effectivement, peut-être que la discrimination, elle se faisait déjà peut-être entre vous au sein du lycée. Et puis ensuite, on a aussi bien conscience du fait que la discrimination, parfois, vous la vivez vous-même à votre niveau. Et surtout, parfois, on est le vecteur de cette discrimination, tout simplement parce qu'on ne connaît pas. Et donc, quand on ne connaît pas, on a une petite crainte. On a une petite crainte de discuter avec une personne handicapée, par exemple, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, parce que voilà. Et donc, c'était aussi l'occasion de faire réfléchir chacun sur quels sont ces stéréotypes qu'on évoquait tout à l'heure, que je véhicule moi-même, et comment je peux m'ouvrir aux autres et découvrir une autre réalité.
D'accord. Et vous avez été touchée par la discrimination dans votre enfance
Alors, vous avez été concernée ?
Ouais, probablement, personnellement. Déjà, en tant que femme, on en parlait à l'instant, mais pas spécialement plus que ça. En tout cas, tout à l'heure, le billet d'Alexia, c'était un sacré coup de gueule. C'était très engagé de s'exprimer là-dessus. Moi, je n'ai pas été touchée comme elle a pu l'être. En tout cas, c'est des choses que je vis aussi parce que dans mon enseignement, finalement, quand on parle de bien-être social, quand on parle de santé, on évoque la discrimination à différentes reprises, donc c'est des choses qui sont présentes au travers de mon enseignement, mais encore une fois je ne suis pas la seule enseignante, vos profs d'histoire géo évoquent sans cesse la discrimination aussi, les profs de lettres, voilà, à travers leur enseignement.
D'accord, oui Valentin, tu as une question.
Oui, est-ce que ça arrive souvent que des élèves vous fassent remonter des discriminations qu'ils ont vécues ou ou de ce genre de fait ?
Alors, ça peut arriver, effectivement, dans la relation qu'on a avec les jeunes, de réaliser que certains sont discriminés. On a des jeunes qui, parfois, mettent en stand-by leur scolarité, probablement parce qu'ils vivent des choses difficiles, y compris au lycée Montplaisir. Ça peut arriver. Mais ce qui m'interpelle aussi, c'est parfois d'avoir des jeunes dans leurs remarques, dans les cours, qui ont des remarques qui sont un peu discriminante et qui montre, qui me démontre que finalement ils méconnaissent une situation et voilà. Et on a tous, en fait, on a tous à grandir. On est tous construits de stéréotypes et le premier qui dit qu'il a pas de préjugés, ben je m'étonnerais de me dire ça parce qu'en fait on en a tous. Vous qui êtes tous jeunes, c'est votre dénominateur commun. Peut-être que vous avez un certain nombre de préjugés sur les vieux, par exemple.
Moi non. Hein.
Mais oui, bien sûr, Damien.
Oui. Mais je les aime bien les vieux. Merci beaucoup. Quelqu'un a des questions ou...
Non, juste, est-ce que... oui, bah, j'ai toujours des questions.
Oui, toujours.
Dans l'enseignement, est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de temps pour parler des discriminations et de ce genre de sujet, ou est-ce que vous trouvez qu'on passe trop vite dessus ?
Alors merci Valentin pour cette question, parce qu'en fait c'est une des raisons pour laquelle on est ravis d'avoir mis en place cette demi-journée, en fait, parce qu'elle répond à un besoin et qu'on n'a pas le temps, nous, de traiter au sein de nos enseignements. Donc là, le fait qu'on banalise les cours pour tous les élèves de première, ça a forcé finalement chacun à mener cette réflexion. Je crois que le retour des élèves est très positif. On a demandé, bah vous l'avez vécu, vous avez rempli un questionnaire. On va dépouiller ces questionnaires pour pouvoir savoir ce qu'ont pensé les différentes classes de cette demi-journée. On verra si ça répond effectivement à des interrogations que vous aviez. Mais c'est sûr que globalement, dans l'année, le prof, son souci principal, c'est de terminer un programme scolaire. On a une, en fait, on a une pression qui nous est donnée de notre hiérarchie. Notre inspection nous attend sur le fait que le programme scolaire va être mené jusqu'au bout. Et si on ne se crée pas des moments où on a ce temps de réflexion, bah finalement, on a du mal à le trouver le temps. Donc, tu poses une excellente question. En fait.
Moi, j'ai une petite question. C'est quoi le questionnaire ?
On l'a pas eu.
Ouais,
la communication est super.
On pourra couper peut-être cette partie de l'émission. Non, je blague. En fait, tous vos délégués, chaque délégué a une petite pochette qui a été remise par Madame Bérard et avec un petit questionnaire qui sera à compléter. Ça nous permet de faire un retour parce qu'en fait, notre souhait, c'est que cette demi-journée, elle soit un petit peu peut-être institutionnalisée. Vous allez passer en terminale l'année prochaine, je vous le souhaite en tout cas. L'année prochaine, les premières, on leur proposera aussi probablement ce temps dont ils ont besoin.
D'accord. Et est-ce que vous comptez faire d'autres actions de ce style pendant l'année ? Ou là, c'était juste parce qu'il y a eu l'occasion qu'on vous ait proposé ça, alors vous avez dit, bah tiens, on va faire ça. Mais enfin...
Ouais, alors des d'autres actions, il y en a probablement qui sont plus isolées. Là, on voulait vraiment toucher tout le monde pour que vous, dans la récréation, pendant le temps de récréation et sur une émission de radio comme celle qu'on est en train de vivre, vous puissiez en parler, que ça voilà, fasse émerger une discussion. Mais finalement, d'autres actions, il y en a. Par exemple, là, il y a une opération ruban blanc qui se met en place pour lutter contre les violences faites aux femmes. En ce moment, on est dans un mois qui se consacre à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, il y a des élèves du lycée qui vont être sensibilisés à ça et qui pourront mener aussi des actions. Mais ça ne sera pas, en tout cas, tout un ensemble de jeunes qui seront touchés, comme c'était le cas sur cette demi-journée du 12 novembre. Et c'était ça aussi, l'intérêt du 12 novembre, que vous puissiez vous croiser dans les couloirs, parce qu'il y avait ces expositions que vous avez pu voir, et que vous puissiez finalement vous dire, bah oui, on est tous concernés, et que vous puissiez discuter de ce que vous avez vécu sur cet après-midi. Ce qu'on espère, c'est qu'il y aura une suite et que vous pourrez peut-être avoir un autre temps pour discuter de ce temps fort vécu. Et on va voir. En tout cas, on va tout faire pour qu'il y ait une suite après.
D'accord.
D'accord, merci beaucoup. Et pas de questions encore ? Non, c'est bon, Valentin ?
Non, mais du coup, ce serait super si vous pouviez continuer à faire des actions comme ça qui sont très intéressantes. Et c'est vraiment super.
Ok. Alors, pour prolonger cette interview, chers auditeurs, nous vous avons donné la parole.
Alors, comment pourrais-je résumer cet après-midi que je viens de passer avec les élèves du lycée Montplaisir? C'est une journée importante pour moi parce que je souhaitais être le témoin d'une expérience de vie où parfois les choses ont été compliquées pour moi. L'idée n'était pas de parler de moi, mais de parler d'une expérience. Et que cette expérience vécue peut être partagée avec d'autres parce que d'autres peuvent se reconnaître dans mon expérience de vie. C'est un échange d'espoir que je mets en toute la jeunesse. Un échange d'espoir parce que en chacun de nous, nous avons cette possibilité de transformer les souffrances, les discriminations, les préjugés que nous recevons des autres pour transformer ça en une force.
J'ai trouvé que c'était une après-midi très, très riche en émotions, en partage de, justement, d'émotions sincères et personnelles.
On fait un deuxième atelier avec les artisans du monde qui consiste en fait à lutter contre toutes sortes de discriminations, mais dans le sens financier, dans le commerce. Donc tous ceux qui sont discriminés du fait qu'ils ne sont pas assez payés, de tout ça. J'ai trouvé cette, cet atelier génial parce qu'on pouvait en fait voir réellement une vraie différence entre les plus riches, les plus pauvres, de pourquoi, du comment, la chance que l'on avait et la chance que l'on n'avait pas. Enfin, ceux qui... On pouvait voir en fait à quelle échelle nous on pouvait être par rapport aux autres. Et en fait, c'est, on se rend compte que c'est assez triste de voir à quel point il y a tellement de gens derrière nous et on les regarde absolument pas.
Donc du coup, on est avec deux élèves qui sortent de l'atelier Artisans du Monde. Et du coup, les garçons, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet atelier ?
Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on s'est mis à la place du personnage. On s'est mis dans sa peau, dans son univers. Et on a pu se poser des questions qu'on ne se posait pas avant et on a pu se rendre compte que bah, ce n'était pas facile. Par exemple, moi, j'étais dans la peau d'un sans-papier malien qui arrivait en France et j'ai pu découvrir qu'il y avait des questions que je ne me posais pas avant et qu'il fallait que je m'y pose.
Donc, on est avec une élève qui sort de l'atelier avec les chiens d'aveugle, c'est bien ça. Et du coup, je voudrais te demander, bah, qu'est-ce que tu en as pensé de cet atelier ?
Alors, c'était un atelier très intéressant qui nous a appris le système avec les chiens aveugles, leur formation et tout ce qu'ils font pour pouvoir être chien d'aveugle.
Nous sommes avec Madame Laurence Dallard, conseillère municipale déléguée à l'égalité hommes-femmes et à la lutte contre les discriminations. Donc, on peut dire que vous avez fait partie des personnes qui est un peu à l'origine de cet événement qui lutte contre les discriminations. Donc, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important, en fait ? Pourquoi avoir décidé de faire ça ?
Parce qu'en fait, les discriminations, c'est un sujet qu'on aborde au sein du collectif Égalité de la ville de Valence. Ce collectif Égalité réunit plusieurs associations qui sont présentes d'ailleurs aujourd'hui à Mon Plaisir. Et que les discriminations, on peut les vivre tous les jours au travail, dans la rue, à l'école. Et que c'est un sujet qui comment dire, touche... l'ensemble de la population, différents degrés. Donc, il nous semblait important que on aborde ce sujet pendant ce mois de novembre, qui est aussi le mois de la lutte contre les violences faites aux femmes, et que c'est, on peut dire, c'est aussi une forme de discrimination.
Donc, je suis en compagnie de trois élèves qui ont participé à deux ateliers. Donc, est-ce que tu pourrais, l'une d'entre vous pourrait me dire lesquels ?
Celui sur la discrimination et ceux sur les artisans du monde.
D'accord, très bien. Et est-ce que vous pourriez me dire ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous avez trouvé ça utile ?
Moi, j'ai bien aimé le deuxième qu'on a fait sur les discriminations. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'en parler. Et au moins, on est plus ouvert à la discussion en petit comité.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un type de discrimination, vous, qui vous touche plus qu'un autre ?
L'harcèlement surtout, parce que il y a beaucoup de personnes qui voient et qui disent rien. Et du coup, je trouve que ça me touche beaucoup sur ça.
Je suis en présence de Madame Nathalie Cluzel, qui est bénévole dans l'association Artisans du Monde, qui a organisé donc un des ateliers de cet événement sur les discriminations. Donc Madame Cluzel, je voudrais savoir déjà comment vous avez eu cette idée d'atelier.
Bonjour à tous. En fait, au sein de l'association Artisans du Monde de Valence, cet atelier donc qui consiste en un jeu qui s'appelle Un pas en avant, c'est un jeu qui est utilisé assez régulièrement, d'ailleurs avec différents groupes, hein, dans différentes structures, et qui vise, là, dans le cas présent, à permettre aux jeunes de prendre conscience des inégalités qui existent dans l'accès aux droits fondamentaux entre les différents pays, bien sûr, mais parfois même au sein d'un même pays. Pour mémoire, les droits fondamentaux, ce sont l'accès à la nourriture et à l'eau de qualité et en quantité suffisante, l'accès bien sûr à la santé, à l'éducation, et puis aussi être respecté dans ses libertés. Voilà, donc il y a effectivement des grandes différences auxquelles on peut penser d'inégalité entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais il y en a aussi entre les hommes et les femmes, il y en a aussi si on vit dans une ville, si on vit dans une campagne, voilà. Donc c'était l'objet aujourd'hui de ce jeu du pas en avant. Je pense que, voilà, que les jeunes ont pu se rendre compte que même si on a connaissance de tout ça, le jeu nous permet de le vivre un peu plus pleinement. Je crois que vous avez rencontré d'ailleurs des élèves qui ont peut-être vous en ont parlé.
En effet, j'ai beaucoup d'élèves qui ont apprécié ce que vous avez fait. Donc du coup, Monsieur Fuma, donc vous avez assisté à une conférence donc sur quoi là maintenant tout de suite?
Alors, en fait, ça commence à 14h, là il est 15h30, donc j'ai pu en assister à deux. Donc ça tourne, c'était autour de l'acceptation des différences des autres. Et voilà, par rapport à deux biais différents. Le premier, c'était par rapport à du photomontage. Et un autre, c'était par rapport à l'histoire, sur l'esclavage, etc. Donc, des interventions très, très intéressantes. Et j'espère qu'ils feront réfléchir nos élèves, parce que c'était très pertinent, j'ai trouvé, les intervenants.
Et voilà, merci à vous de vous être exprimés. Et maintenant, c'est au tour de Maëva.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du racisme parce que c'est un sujet qui me touche parce que je suis métisse quoi. Enfin, je suis pas. Voilà, mais vraiment c'est hyper touchant. Même si j'en ai pas vraiment vécu, c'est par rapport à ma famille et tout, c'est vraiment très. Je sais pas comment l'expliquer.
Tu te sens concernée ?
Ouais, voilà, je me sens concernée. Donc déjà, qu'est-ce que le racisme ? Le racisme, c'est une idée selon laquelle l'espèce humaine serait composée de plusieurs races différentes. Donc c'est faux parce que nous sommes tous homo sapiens, en fait. Et donc, certaines races... J'aime pas dire ce mot race, mais bon, tant pis, je vais le dire. Et donc, certaines races seraient supérieures, tandis que d'autres seraient inférieures. Cette idée a conduit des peuples à vouloir en dominer d'autres, comme par exemple les Européens. Se sont longtemps appuyés sur le racisme pour dominer... les Africains et pratiquer l'esclavage. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc le racisme vient de la mentalité des gens. Donc malheureusement, ça existera toujours. On ne peut pas changer les gens. Donc c'est pas très joyeux de dire ça, mais oui, ça existera toujours. Et le pire, c'est que ça ne sert à rien d'expliquer à ce genre de personnes. Et que nous sommes tous pareils, parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Pour eux, dans leur tête, c'est « Ah, t'es comme ça, t'es pas normal, en fait. » Alors que, en fait, nous sommes tous pareils. Enfin, nous sommes tous pareils. D'un côté, ils ont raison de dire qu'on n'est pas pareil, parce que, tout simplement, la différence, c'est que nous sommes tout simplement bien éduqués, contrairement à eux.
Et toc
voilà. Donc, que faire contre le racisme ? Je pense que l'éducation est la seule option qui permettrait d'améliorer la mentalité des gens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs. Est-ce que vous avez une idée de comment gérer ce problème ?
L'apprendre dès le plus jeune âge.
Il faut éduquer les enfants.
Oui, voilà.
Il faut leur expliquer qu'il y a des différences.
Exactement. Non, ou pas.
Oui.
Ou pas de différence.
Justement, ou pas.
Ouais, mais...
Tu t'es trompé de sujet. Hein.
Mais non, je me suis comprise quand j'ai dit ça.
Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent si j'en ai vécu. Honnêtement, non. En fait, j'en ai jamais ressenti. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais...
T'en as pas eu l'impression, en tout cas ?
Ouais, non, j'en ai jamais eu l'impression. Et après, moi aussi, j'ai ce truc de... si on me dit quelque chose, je vais le prendre à la rigolade. Parce que... Enfin, je sais qu'avec mes amis, on rigole beaucoup sur ma couleur de peau. Pas vrai, Dounia ?
Je me sens pas du tout visée.
Enfin, voilà, moi, je prends ça à la rigolade, en fait. Puis après, voilà, tout simplement. Je pense qu'en grandissant, par contre, quand je vais commencer ma vraie vie d'adulte, ma vie de travail, je pense que là, oui, peut-être que je pourrais en témoigner. Mais pour l'instant, non, je n'en ressens pas vraiment le besoin.
Tu reviendras à la radio pour le dire.
Ouais, c'est ça, dans 10 ans. On se revoit dans 10 ans.
Ouais, tellement. Et, par contre, je sais que mes frères et sœurs, qui eux, pour le coup, sont vraiment noirs, mais vraiment très noirs. Je pense qu'il n'y a pas plus noir.
Pardon.
Non, mais c'est vrai. Et ben, eux, ouais, ils en ont vraiment, vraiment vécu. Surtout quand ils sont arrivés en France, sachant que ben, ils sont Guyanais haïtiens. Et du coup, quand ils sont arrivés en France, ben, dans leur lycée, c'était vraiment les seuls noirs, en fait. Mais vraiment, il n'y avait que des blancs. Mais vraiment que des blancs. Sur les photos de classe, on voyait juste un noir. C'était ma sœur ou mon frère. Et du coup, eux, oui, ils en ont vraiment vécu parce qu'ils ben, se faisaient embêter dans les couloirs ou quoi par rapport à ça. Et ben, je trouve ça vraiment...
C'est triste.
Ben, ouais, c'est pathétique, triste, surtout. Ouais. Et je sais que mon frère, qui... lui, il est assez costaud et tout, mais il était assez réservé. Il en avait parlé une fois au directeur, il me semble, et le directeur n'avait rien fait. Enfin, je veux dire, en fait, il avait juste entendu. Il n'avait pas écouté, en fait. Et du coup, mon frère, il n'en pouvait plus. Et du coup, il en est venu aux mains. Donc voilà, il a frappé tous ceux qui l'embêtaient.
Et il a frappé le directeur, au final ou...
Non, non.
Il a épargné.
Je pense pas. Hein. Mais voilà, il a vraiment frappé... Il en est venu à la violence, alors que mon frère, c'est quand même une personne qui n'est pas violent. Et du coup, bah, suite à ça, eh ben, il se faisait plus embêter. Alors, je ne suis pas en train de dire que la violence, c'est une astuce, parce que là... Mais juste, voilà, des fois, bah, c'était mérité, on va dire. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que des fois, on en parle aux adultes qu'on pense qu'ils peuvent nous protéger. Et finalement,
en fait, non.
Finalement, non. Donc, en fait, il faut vraiment... Je pense qu'il faut vraiment comment l'expliquer.
Faut le dire aux parents. Les parents, ils doivent comprendre ça.
Ouais,
c'est après,
vrai.
C'est peut-être pas non plus simple d'en parler à ses parents.
En fait, c'est dur d'en parler. C'est compliqué de se dire qu'on est faible alors qu'on n'est pas faible, en fait. Enfin, moi, mon astuce, ce serait tout simplement de ces personnes-là, les éviter, enfin les ignorer. Et ignorer, ça ne veut pas forcément dire qu'on est faible. Non, ça veut juste dire qu'on ne veut pas se prendre la tête avec ce genre de personnes.
Oui.
Qui sont tout simplement pas éduqués, en fait. Ils sont juste pas intelligents. Je sais pas comment m'exprimer, mais ce genre de personnes, voilà, faut pas les écouter, en fait. Voilà. Voilà, quand ils parlent, bah, juste
après,
partez. Voilà.
Je trouve que c'est facile à dire, mais pas vraiment à faire.
Ouais, c'est vrai.
Parce que, oui.
Après, je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus sur le racisme, à part que, voilà. Il n'y a pas vraiment d'astuces. Il y a les lois aussi qui sont là, mais bon.
Oui.
Oui. C'est bon ?
Moi, je m'arrêterai là.
D'accord. Ok, merci. Et pour finir notre émission, Dounia nous fera un billet d'humeur.
Alors, me revoilà pour mon billet d'humeur. qui, pour moi, est une expérience de harcèlement que j'ai vécu tout d'abord au collège mais aussi pendant ma deuxième année de CAP petite enfance. Alors au collège c'est arrivé car je venais d'emménager en campagne puisque comme vous le savez j'habite à Chabeuil et Chabeuil c'est pas la ville hein. Voilà. Parce que de base bah, je viens du quartier d'un quartier de Valence. Et disons que le premier point de vue qu'on a eu de moi, c'est « Ah, elle est du quartier, elle va faire le pitre, ça va être le pitre de la classe » ou encore le fameux « Elle va se faire virer souvent ». Parce que oui, on est connus, nous, les gens du quartier.
En fait, on t'a collé une étiquette directement.
Voilà.
C'est des préjugés.
Oui, parce qu'en fait, on est connus pour être des sauvages. Ouais. Donc, voilà. Et quand ils ont remarqué que bah, j'étais tout le contraire de ça, bah, ça leur a pas plu. Et ça a commencé bah, tout d'abord par une personne qui d'ailleurs venait aussi du quartier comme moi, qui était très très proche de moi et qui me disait que personne ne m'aimait et que je devais rester bah, qu'avec elle. Mais vraiment comme un siamois, quoi, tout le temps. Puis ensuite, bon, bah, y a eu le retournement de situation, donc l'effet boule de neige, où plus personne ne me parlait. Parce que forcément, quand quelqu'un va voir des gens en lui disant « Oui, Dounia, elle t'aime pas », et puis que toi, on vient te voir en te disant « Oui, non, mais personne ne t'aime », forcément, quand il n'y a pas de communication, ça devient très, très, très difficile. Donc, ça fait que ben, personne ne me croyait, parce que, bien évidemment, moi, j'ai essayé d'en parler, mais personne ne me croyait, car tout le monde bah, côtoyait cette personne-là. Tout le monde bah, écoutait elle, parce que c'était l'une des plus populaires.
Oh là là, la popularité, ça, c'est un truc qui m'a toujours énervée. Ouais. Mais vraiment. Ouais.
Et oui.
Ah bah, les populaires.
Donc vous savez que moi, bah, je me faisais passer un peu pour la menteuse, pour celle qui, bah, en fait, qu'on n'écoutait pas, quoi. Donc ça fait que j'ai passé mes deux années de 4e et de 3e, parce que oui, forcément, je suis restée dans le collège, hein, sinon c'est pas rigolo. avec des gens qui ne me connaissaient qu'à travers cette personne-là et qui n'ont même pas cherché à venir s'excuser ou à parler avec moi pour apprendre à me connaître. Voilà. Ensuite, à la suite de ça, disons que la haine s'est installée. Je me suis endurcie, pas de la meilleure des manières, mais je me suis endurcie. Et j'ai essayé d'avancer comme je pouvais. J'ai d'abord essayé, si vous posez la question, d'en parler au directeur. Sauf que, comme le disait Maëva tout à l'heure, par rapport au racisme, il a écouté. Et puis la seule chose qu'il a su faire, c'est la changer de classe l'année d'après.
Waouh!
Voilà. C'est génial. Hein. Ensuite, pour ma deuxième histoire, bien évidemment, je vais la faire courte, mais d'ailleurs, c'est assez cocasse. C'était en deuxième année de lycée en CAP. Et tout est parti d'une histoire de crêpes.
Quoi? De crêpes?
Ah oui, non, mais vous allez. Enfin, comme ça, dit comme ça, c'est drôle, hein, mais sur le moment, je peux vous dire que j'étais très. Voilà. J'étais très, 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 très colère, surtout que je ne comprenais pas. Je me suis fait littéralement insulter dans le groupe de ma classe sur Snapchat par une camarade, car je ne savais pas faire cuire des crêpes et que ma maman s'était proposée de me faire cuire les crêpes en rentrant du boulot. Voilà. Je vous laisse vous imaginer les insultes que je me suis prises.
Les discriminations crêpières, ça touche tout le monde.
Non, mais c'était très, 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 très violent. Surtout quand, vous savez, on est 28 dans la classe, quand vous avez 28 personnes dans un groupe de classe qui regardent, et puis la seule qui prend votre défense, quelque part, c'est quelqu'un qui vous comprend. Voilà quoi. Et en plus, le pire, c'est que, petite anecdote, le lendemain, avec tout le respect que je vous ai, ils ont eu le culot de me regarder et de me dire « Tounia, ça va pas ?» Non, ça va pas, non. Non, non, non. Quand tu viens de te faire lyncher, non, ça va pas du tout, non. Oui. Donc, bon. Ensuite, est venu mon ressenti par rapport à ce que je viens de livrer, hein, évidemment, ce que je viens de livrer, les situations que j'ai vécues. Donc, j'ai tout d'abord essayé de comprendre ces personnes, mais en essayant de les comprendre, forcément, j'ai quand même pas compris une telle violence, que ce soit verbale ou à travers un écran, hein, j'ai pas compris du tout. Hein, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai eu une baisse dans mon travail. Donc d'abord au collège, hein, j'ai pas eu mon brevet. Après, j'ai eu aussi des problèmes personnels, mais voilà, ça a quand même joué là-dessus. Je voulais plus aller en cours. Ce qui m'a sauvée pendant mon CAP, c'est le confinement, car j'étais dans ma bulle chez moi. Mais par la suite, j'ai eu quand même énormément de mal à m'approcher de quelqu'un, à essayer de parler à quelqu'un. Et ça m'est encore beaucoup, beaucoup difficile, hein, aujourd'hui. Mais j'essaye de vaincre au quotidien cette peur de l'autre, en espérant avoir pu aider ceux qui nous écoutent. Voilà, merci à vous.
Merci, Dounia. Et c'est ainsi que se termine l'émission. Merci à tous les chroniqueurs, à Madame Guichard de... Oui, c'est ça, bien Guichard, pardon. Je vais pas me tromper sur votre nom. Alors, merci à vous de vous être déplacés pour nous. Merci à Monsieur Noureux en coulisses et à bientôt sur Radio Slash.
À bientôt.
Aimez-vous.
À bientôt. Oui, c'est ça, aimez-vous.
Peace. Merci à vous de m'avoir invité.
C'était un plaisir.